Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous des comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent, aussi parce que les salles sont fermées, mais c'est quand même quelqu'un qui fait un peu tout le temps l'actualité, c'est Jean Dujardin. Et pour ce faire, j'ai deux, on peut les dire, des Dujardinistes, je ne sais pas comment on peut les appeler. J'ai Hugo Alexandre. Les Dujardiniers, exactement. Hello Hugo Alexandre.
Bonjour, bonjour.
Et Yérim Sarr.
Salut.
Alors, pour commencer, c'est simple. Enfin, Jean Dujardin, c'est une espèce à la fois d'icône, c'est à la fois un comédien qui incarne une certaine idée, une certaine génération du cinéma français. C'est un mec qui quand même était oscarisé et palme d'orisé. Il a tout pour réussir et en même temps c'est un mec qui fait un peu débat. J'ai envie de savoir, Hugo, on va commencer par toi. Qu'est-ce qui t'évoque Jean Dujardin en 2021? Parce que au début j'étais revenu en 2020, mais en fait non, on est passé en 2021.
C'est marrant que tu dises qu'il fait débat parce que je trouve j'ai l'impression qu'il fait plus vraiment débat aujourd'hui.
Ah ouais.
Et c'est devenu un peu un acteur incontournable. Alors que c'était pas forcément le cas, effectivement, au début, quand il a commencé avec un gars, une fille. Et par exemple, moi, j'adhérais pas tellement à ce programme-là.
T'étais pas la génération des sketchs des Nous C'est Nous, quoi.
Si, j'étais cette génération-là, mais ce programme-là qui l'a vraiment révélé me plaisait pas particulièrement. Et donc, quand il a commencé à faire des petits rôles en comédie, j'étais pas forcément hyper convaincu. Et après, il a quand même su se montrer convaincant dans des rôles de con, en fait. Enfin, ça a longtemps été sa spécialité. Il l'a longtemps fait très bien, et il le fait toujours très bien. Et je trouve que depuis quelques années, il s'est diversifié, et il fait de plus en plus de rôles très différents. Et je trouve qu'il commence vraiment à prendre une autre dimension. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne fait plus vraiment débat, quoi. N'importe qui peut se retrouver dans un rôle du jardin, que ce soit chez Azanavicius ou dans une comédie romantique ou dans des films un peu plus niches comme chez Blié ou chez Carverne et de l'Épine. Enfin, tout le monde peut avoir son du jardin préféré, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir un acteur qui est à l'aise un peu dans toutes les formes de comédie, qui essaie de se diversifier, de faire plein de choses différentes, et il le fait très bien.
Et toi, Yérim, qu'est-ce que ça t'évoque maintenant du jardin?
Alors, à la toute base, pour moi, c'est l'acolyte de Bruno Salomon dans Salomon et du jardin, dans Fart Attack.
Donc, et tu comptes pas Collado là-dedans, quoi? Collado,
pas encore. En parallèle, moi, je découvre d'abord en binôme, donc c'était Bruno Salomon et Jean Dujardin qui faisaient des sketchs dans une émission qui s'appelait Farce Attack. Je sais pas si c'était France 2 ou France 3, mais c'était France Télévisions, c'est sûr et certain.
France 2, ouais, le dimanche.
Et après coup, en fait, je comprends qu'en fait, c'est un duo qui appartient lui-même à un collectif d'humoristes qui s'appelle Et Nous C'est Nous. Et donc, je commence à suivre un petit peu. J'aime pas forcément tout, mais t'as cette espèce de côté humour assumé, mais vraiment absurde, gogol, etc. Et donc, c'est comme ça que je me le prends, en gros. Donc, clairement, je me dis pas... Je pense que, comme tout le monde, je me dis pas cet homme peut impressionner Robert De Niro et décrocher un Oscar.
Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est une légende urbaine, quand même?
Écoute, je sais pas si c'est vrai. Mais cette anecdote, en gros, le moment où De Niro lui dit j'ai envie de croire que c'est vrai, écoute, le côté où De Niro lui dit moi, à ta place, je sais pas ce que j'aurais fait en tant que, tu vois, acteur de film muet, etc. Bref. Le fait est que moi, je me le prends en tant que mec des Nous, c'est nous et de Salomon et Desjardins. Donc, mec marrant. Je pense qu'on reparlera de certains personnages qu'il a pu faire à cette époque-là et qui sont retrouvés dans des films après. Et pour moi, c'est le moment où je me dis « Ah, c'est plus que, c'est beaucoup plus que ça. » C'est Le Convoyeur, en fait. Le moment où je le vois dans Le Convoyeur, et sans dévoiler le film, disons qu'il fait un rôle qui est assez important et dramatique.
Toujours un peu borderline,
ouais. Ouais, il joue... En fait, c'est pas con. C'est le moment où il joue de sa bonhomie et de l'empathie qu'il peut provoquer chez le spectateur. Et à ce moment-là, pour moi, il est à peu près au maximum, en fait, de ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, j'essaie de pas du tout dévoiler Le Convoyeur, mais il peut cacher derrière cette espèce de sympathie assez naturelle chez lui quelque chose de plus profond, de plus intéressant. Et donc, c'est là où je me dis, OK, lui... Et surtout qu'il est en face d'acteurs qui, pour le coup, on parle de François Berléand, Dupontel, etc. Et là, tu dis, OK, clairement, il est parti sur autre chose. Il peut faire un truc qui va nous marquer, etc. En gros, moi, c'est ça, la scission, on va dire, ouais, très caricaturale, entre l'avant et l'après, en gros, le Dujardin sketch et le Dujardin... acteur. Encore une fois,
c'est très tôt parce que Le Convoyeur, c'est un de ses premiers rôles. Le
Convoyeur, c'est 2004.
Il me semble qu'il a fait un truc avant, mais j'ai plus le titre du film, je suis désolé.
Avec Carl Bouquet. Je peux vous dire, il a fait un caméo dans Les Clés de bagnole. C'est tout ce dont je me souviens.
Mais, il me semble qu'il y a un truc avec Carl Bouquet où il est.
Bienvenue chez les Roses.
Peut-être. Non ouais.
C'est ça. Exactement, c'est Bienvenue chez les Roses, ouais. Mais c'était un mec, jusque-là, c'était un mec à second rôle. Et puis ensuite, en fait, on pourrait presque distinguer plusieurs axes de sa vie quand même. Parce que il y a ce moment où il devient vraiment acteur, convoyeur. Puis il y a une saga évidente, c'est OSS. Et surtout, faut que je dise ça à nos auditeurs, on a enregistré un spécial Dujardin, mais dans les toutes premières émissions de MDR, donc ça remonte. Et à l'époque, on en parlait, on se disait OSS, c'était quand même, on avait mis l'accent énormément sur OSS, en se disant qu'il y a quand même cette espèce de d'arlésienne qui est OSS 3 déjà. À l'époque, on n'y croyait pas, on n'y croyait pas et on disait on aimerait bien la voir, mais est-ce qu'il sera pas trop vieux, est-ce que ce sera pas trop tard, est-ce que la France aura pas changé, et on disait, on a vraiment dit ça dans l'émission. Et
on est toujours pas sûr de le voir un jour, en fait, hein. Ça se trouve, ça n'arrivera
tu
jamais.
Tu penses aux salles de cinéma?
Bah ouais.
Peut-être quelqu'un. Non, mais le film existe.
Putain,
c'est maintenant.
On sait jamais ce qui peut
arriver.
Oui,
oui. Quelqu'un va perdre les bobines dans le désert. Et ensuite, il y a.
Un incendie.
Il y a quand même. On va revenir sur SS, bien sûr, mais il y a aussi cet espace-temps de Dujardin entre le moment où. Il y a Vie Artiste, évidemment, qui suit OSS de pas longtemps, et ce moment un peu trouble où t'as l'impression qu'il se cherche et qu'il essaye de faire un peu des rôles sérieux. Je sais pas si vous vous souvenez de La French, de Mobius. Il y avait même vraiment beaucoup plus tôt, il y avait cette enquête sur contre-enquête, justement. Enfin, c'était vraiment, tu sentais qu'ils essayaient d'être un acteur un peu complet et que ça passait pas complètement, quoi.
Pour moi, il y a une bascule avec OSS, parce que OSS, c'est tellement fort, le personnage est tellement vivant qu'il est devenu plus fort que lui. Et les films que j'ai vus avec Dujardin après OSS, j'avais l'impression de voir OSS jouer. Et du coup, ça a été un peu sa malédiction. Et The Artist, c'est un peu pareil pour moi. J'ai pas vachement adhéré au film parce qu'il y avait un côté vraiment presque parodique. Enfin, j'arrivais pas à croire à ce gars qui faisait semblant de faire du muet. Et je voyais encore OSS 117...
Tu penses qu'il aurait pu faire
faire des conneries,
qu'il aurait pu faire les mêmes blagues racistes et misogynes dans Vie Artiste?
Ouais, c'est ça. Alors, et les artistes, c'est bien particulier parce que c'est aussi Azanavicius et c'est aussi un pastiche, un hommage qui était déjà au SS, qui n'est pas tout à fait une parodie.
C'est un pastiche.
Genre du pastiche. Ouais. Et du coup, c'est plus en allant voir des gens plus différents et d'autres variétés d'humour qu'il a réussi à trouver autre chose. Et par exemple, sur un film comme I Feel Good ou Le Dain, il va un peu à l'encontre de sa nature qui est de prendre beaucoup d'espace, de faire beaucoup de mouvements, de gestes. Et au contraire, il a un jeu hyper introspectif.
Là...
Et dans le Dain, c'est tout dans les yeux, quoi. Parce que Dupieux, c'est des plans très fixes, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Et là, il montre autre chose. Enfin, il montre quelque chose que... Enfin, c'est plus du tout OSS, pour le
là,
coup.
Clairement, tu parles du dernier acte de Jean Dujardin, c'est-à-dire Yérim, tu vois, en plus tu l'as, vous l'avez, je crois que vous l'avez chroniqué tous les deux, I Feel Good justement à l'époque.
Ouais. Ah, c'est possible. Ouais.
C'est le I Feel Good, c'est le Dain et le retour du héros qui est un peu son film le plus traditionnellement Jean Dujardin qu'il est de cette époque en fait.
Est-ce... Ouais, et c'est intéressant parce que le retour du héros c'est un personnage qui raconte des histoires et qui en fait trop. Et dans le film, ça raconte un mec qui en fait trop. Et du coup, c'était un peu presque une critique de ce qui était Dujardin avant ce film. Et c'est bizarre de voir qu'après ce film, il a fait un petit peu autre chose.
Est-ce que toi, est-ce que tu penses que cette tournant dans sa filmo, c'est-à-dire, on va parler du troisième acte, c'est-à-dire le post-Brice 3, parce que Brice 3, c'était celui, c'était le film de l'agonie de, je pense, de, c'est le film où il a essayé de tuer son personnage de sa première génération, en fait.
Je serais tenté de te dire que le moment où il a essayé de le rendre, en gros, le tuer, donc le rendre méta, ce serait une espèce de tu sais, c'est quand Hellphone.
Ah oui, Hellphone, oui.
Où il fait comme c'était un Nick Fury d'un univers partagé de comédie nulle française. Et il dit, ouais, rends-moi le téléphone, tu pourrais le casser. Genre, en gros, ouais, c'est comme je dis, c'est univers partagé, quoi. Non, vas-y.
Non, excuse-moi, il y avait un petit bruit de... Un petit bruit
ah, pardon.
Il y a aussi un truc qui me paraît important dans sa filmo, c'est quand même ses affects, parce qu'il a essayé quand même d'être un mec d'une bande de potes, quand même. Je pense que il a essayé de rentrer dans l'univers de Blier avec le bruit des garçons, mais surtout, et je pense que ça lui a collé un peu à les basques, c'est la bande à Canet, donc des petits mouchoirs, et ça, on peut pas ne pas parler de cette comédie. On n'a pas fait d'épisode spécifique ni aux petits mouchoirs ni à sa suite.
Et on mais... sait pourquoi.
Bah oui, c'est alors tu sais quoi, j'ai entendu des vrais rires dans la salle hein, des petits mouchoirs.
Mais alors moi, les petits mouchoirs, la partie comique, je trouve ça plutôt convaincant. C'est plus l'heure en trop avec le sac de sable dans la tombe et tout, qui était un peu too much, et Marion Cotillard qui chiale pendant une heure. Mais je trouvais que la partie comique était pas si ratée
toi,
que ça.
Toi, c'est ton goût pour les films de potes riches. mais en vrai...
au-delà du background, disons, social... Je trouvais que Laurent Lafitte était drôle. Enfin, il y avait des bonnes choses.
Mais je ne sais pas si tu as vu la suite, justement. Et ça, je pense que c'est peut-être...
Hélas.
Bah, écoute, ça, c'est peut-être le meilleur rôle de... C'est peut-être le plus intéressant de Jean Dujardin. Puisque Jean Dujardin fait un caméo dedans. Évidemment, une espèce de pseudo-flashback, genre « La vie est belle ». Et littéralement, Jean Dujardin, dans ce flashback, entre guillemets, incarne un peu... tout ce que les gens préféraient avant, et c'est métaphoriquement c'est super. Hein. Le film est nul, hein, je tiens à dire, nous finirons ensemble, c'est horrible. Mais c'est irregardable. Hein. Mais
par rapport au premier, c'est comment
bah, c'est, en fait, c'est presque pire parce que les petits mouchoirs en
attends,
fait.
Presque ou pire.
Bah ouais, en fait, tu vois, les petits mouchoirs étaient vraiment dégueulasses, je trouve. Hein. C'est vraiment un film... que ça fasse peut-être rire, je l'accepte. Hein. Mais je trouve que, globalement, le film est une espèce de dégueulasserie de gens riches entre eux. Je déteste les, je déteste les films de vacances.
Tu peux pas dire c'est une mauvaise comédie
oui.
parce que
non,
c'est
bien
des
sûr,
gens.
Bien sûr, bien sûr.
Dans,
mais ce que je veux dire,
on ira tous au paradis. C'est des mecs qui ont un terrain de tennis chez eux.
Tu disais, Yérim.
Je pense que je peux le dire. C'est une mauvaise
alors,
comédie
non, mais le
parce
truc...
que c'est des gens riches entre eux.
Non, mais le truc c'est qu'ils sont horribles les uns avec les autres et je trouve que les personnages n'ont pas de cohérence interne.
Ouais, c'est plutôt oui. ça. C'est qu'ils sont pas cohérents et que juste c'est pas
juste,
marrant.
Juste en fait c'est un dixième de perso à chaque fois et en fait si tu les rassembles tous en un seul, tu obtiens Guillaume Canet. Donc c'est un peu est-ce que c'est le film de la schizophrénie de Guillaume Canet? Est-ce que ça en fait un film drôle? Je ne sais pas. Mais pourquoi Nous finirons ensemble est peut-être pire. C'est parce que c'est un film qui vit avec le succès du précédent mais qui se dit OK, le précédent on sait très bien. Guillaume Canet, même en interview, c'est pas qu'il récusait le premier, mais il disait, OK, je sais que c'était à certains, il a accepté la critique et il a dit, OK, je sais que c'était pas génial, en fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai compris dans les interviews. Et du coup, dans cette suite, il se dit, là, ce coup-ci, c'est la maturité, c'est la comédie du souvenir du bon ami qui était dans Jean Dujardin. Et donc, du coup, à bien des égards, je trouve ça pire. Parce que ça veut dire que celui-là, il s'est cassé la tête pour le faire. Celui-là, il a été co-scénarisé.
Bon, il s'est cassé la tête pour le premier aussi.
Je sais pas s'il s'est cassé la tête, je sais pas.
Il a fait un accident de cheval.
Il voulait faire du sauté, quoi.
Il voulait faire du sauté, ça c'est évident. Et puis, Tomer, en général, quand ils font de ce genre de comédie, ils disent « on veut faire des comédies à l'italienne », tu vois. C'est genre, c'est ce qui est le mot
C'est le Joker.
C'est le mot truc passe-partout, c'est quoi que vous aimez. J'aime bien les comédies à l'italienne. Pour moi, n'empêche, Jean Dujardin, après son incursion américaine, il a fait quand même un rôle, il a eu un des rôles importants du Loup de Wall Street. Il y a un truc qui me paraît important, c'est quand même qu'il a essayé de faire des comédies un peu différentes. Je sais pas si vous avez vu Un homme à la hauteur de Laurent Tirard.
Alors, mais là on est d'accord.
J'ai pas eu cette chance.
Est-ce que on est d'accord qu'on est déjà en post, on est en post-Oscar en fait.
Ah là, on est en post-Oscar, The Artist,
il y a déjà
2011.
Là il est déjà dans sa filmo, dans sa carrière.
Alors. Un homme à la hauteur est un film loupé, mais par contre, ce que Jean Dujardin essaye de donner et ce que ça doit lui prendre comme ego justement d'être rapetissé un peu, d'être mis à genoux ou même d'être numériquement rapetissé, c'est, je pense que ça a dû être une expérience assez intéressante pour lui en tant que comédien par rapport à sa propre filmo. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il devient aussi, et ça, il faut que récuser un des participants de ce podcast. Hugo, tu as joué avec Jean Dujardin, dans le même film que Jean Dujardin.
Ah
non, c'est ma casserole, ça.
Mais non, mais t'as été figurant, voilà.
Dans quoi ?
Ouais, j'ai été figurant chez Roman Polanski.
Oh putain, double casserole, hein, clairement.
Ah mais attends, t'étais pas... Voilà, non, mais attends, t'es figurant,
bon.
On t'appelle un matin et je pense qu'il y a eu un peu un poste. Je sais pas quelle va être la répercussion justement de J'accuse sur son activité comique en fait.
Moi je pense que ça aura aucune répercussion parce que en fait tous ces rôles dramatiques, enfin aucun de ces rôles dramatiques n'ont de répercussion en fait parce qu'il est largement meilleur en comédie je trouve. À part The Artist qui est un peu hybride, mais enfin, comme ça, si je regarde pas sa filmo, je pourrais pas citer des films dramatiques qu'il a fait. Enfin, je peux les citer en réfléchissant.
Bah, tu pourrais dire La French.
Je me souviens pas de rôle mémorable.
C'est vrai qu'on le retient jamais pour La French. Enfin,
bah,
je pense pas.
C'est pas bien La French.
Bah, en fait, c'est un bon acteur, mais là où il explose, c'est vraiment en comédie, quoi. C'est son truc. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a démarré sur scène en faisant des sketchs, quoi. C'est que c'est ça qu'il sait faire, et il dit lui-même que il joue au sens propre quand il fait l'acteur, il joue et c'est un comédien quoi, au sens propre.
Il faut qu'on parle d'OSS. We got to talk about OSS, comme disait pas Kevin, mais on va parler d'OSS. OSS, c'est quand même pour moi son chef-d'œuvre. Et en même temps, le bon souvenir, parce que moi, j'adore OSS, j'adore les deux OSS. Je pense que c'est quand même une période assez dorée dans en termes de comédie, puisque c'est quand même la fusion d'Azanavicius, Jean-François Alain et Dujardin, qui est littéralement leur petit pinceau, parce que il est ultra contrôlé par le texte et par Azanavicius. Je ne sais pas si vous êtes des OSSistes, du moins autant que moi.
Oui.
Yérim, toi, comment tu... Je sais que Hugo, il est très OSSien, mais comment toi, tu es, Yérim, par rapport à OSS?
Moi, je suis... En fait, moi, je kiffe pour une raison très, très simple et très, très conne.
Ah.
C'est que je retrouve le côté Zaz qu'il y avait dans La Cité de la Peur et qui est très rare, en fait, dans les comédies françaises. Et du coup, ils ont un peu... Pas entièrement, parce que c'est pas non plus un truc slapstick à chaque gag ou quoi. Ouais. Mais ils ont ce truc d'humour parodique. Donc voilà, je respecte la démarche.
Du pastiche. Ouais, et, pastiche. Et du coup, OSS, donc, toi Hugo, tu, par rapport à OSS, puisque tu n'étais pas là dans cette émission il y a 5 ans au minimum, comment tu t'adresses par rapport à OSS? C'est quoi OSS pour toi?
Bah, c'est une sorte de chef-d'œuvre de la comédie, quoi. Ils ont vraiment, enfin, non seulement c'est un pastiche très réussi, mais ils ont créé un personnage qui est vraiment cohérent et qui est touchant, qui raconte quelque chose. Et ça doit vraiment beaucoup à Dujardin. C'est-à-dire que c'est un personnage je disais qu'il jouait tout à l'heure Dujardin, et en fait il est un peu comme Dubosc en sas, qui il joue un mec qui joue, enfin un mec qui fait semblant. C'est vrai qu'il compense sa fragilité en gesticulant. Et il y a des moments dans OSS où la carapace un peu se fendit et il fait un regard bovin d'un seul coup, et tu vois le mec derrière le sourcil frétillant, quoi. Et c'est vraiment un personnage de comédie extraordinaire, quoi.
Et bon, on est d'accord, les deux OSS, moi en tout cas, je ne m'en lasse pas, je les trouve super. Je pense que les deux OSS vont devoir affronter leur menace fantôme. Et leur menace fantôme, elle s'appelle Alerte Rouge en Afrique Noire. Ouais. Réalisée non pas par Azanavicius.
J'ai cru que t'allais être direct et que t'allais dire elle s'appelle Nicolas Bedos. Parce qu'en vrai, non, c'est ça.
Je peux pas être si frontal. Je sais pas s'il y a que lui, en fait. Je sais pas si seul Nicolas Bedos peut porter à lui tout seul la portée de la réussite.
Alain, le scénariste, c'est
ça toujours
qui
là.
Est, ça qui est dommage, presque.
Il est toujours là.
C'est que lui, il avait déjà écrit son troisième volet d'OSS. De toute façon, il a aussi participé à une excellente série assez drôle. Et je suis absolument désolé, je n'ai plus le nom de la série. Je suis désolé, je n'ai pas préparé cette émission suffisamment.
Attends, on va couper au montage. Tu vas le redire, c'est au service de la France.
Ok. Jean-François Alain a aussi fait le scénario d'Au service de la France, qui est une série. Il me semble que c'était sur Arte. Et c'était très drôle. Et c'est un mec qui, en gros, je sais que parce qu'on l'avait interviewé il y a maintenant très longtemps, enfin très longtemps, plusieurs années, on n'était pas sûr qui est même hypothétiquement un nouvel OSS 117, etc. Et il avait déjà son plan dans sa tête. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'était clair, c'était évidemment, il faut qu'il aille en Afrique noire, et évidemment, il faut que dans sa tête, ce soit Tintin au Congo. Il faut que ce soit un débile. Parce que c'est ça, en fait. Hubert Bonisseur de la Batte, c'est un crétin. C'est l'essence du personnage. Et le fait d'avoir retardé, alors c'est la faute à personne dans un premier temps, maintenant, ils l'ont confié à Nicolas Bedos. Bon, en tant que réal, moi, personnellement, j'ai rien contre lui. Par contre, à la seconde où ils ont dit « Ouais, du coup, il veut aussi retoucher le scénario. » Bon, là, tu dis « Ah, ça peut, malheureusement, ça peut peut-être un peu rabaisser le bordel. » Mais encore une fois, Y a rien dans le teaser qui nous dit ça. Il y a rien dans le... voilà. C'est juste que pour moi il y avait un couloir pour que ce soit Azanivicius du jardin qui continue leur route ensemble au moins sur un troisième. Et bon, apparemment pour des problèmes.
Alors moi j'ai entendu que qu'Azanivicius avait lu le scénario et que le scénario lui avait pas plu.
Ok.
Et c'est aussi ça qui me faisait un peu flipper. Alors après, je sais pas dans quelle mesure Azanivicius il veut pas un peu sortir de OSS et essayer de faire.
Azanivicius clairement a d'autres ambitions. Il en a parfois marre qu'on lui rappelle la classe américaine. Je pense qu'il en a aussi ras le cul qu'on lui rappelle.
Ouais, donc c'est pas dit qu'il ait refusé le scénario.
Après, il a réussi parce qu'il était moins bon. Personne ne va lui rappeler le prince oublié. Hein. Jamais.
Mais il essaie. C'est bien. Il faut toujours essayer.
Je suis d'accord avec toi, Yérim. Il n'y a pas d'autre choix pour OSS pour terminer la saga que d'aller au nœud du problème du racisme de OSS. Parce que c'est ça aussi le truc d'OSS, c'est que c'est un abruti. Et c'est un abruti qui est mis devant des gens qui sont tous plus intelligents que lui. Le fait qu'il gagne à la fin... C'est Inspecteur Gadget, quoi. C'est le gag. C'est qu'il s'en sort quand même.
Mais alors, le truc, c'est que dans le deuxième épisode, on sent qu'il se relâchait un petit peu. Il commençait à avoir des expériences un peu plus... qui lui ouvraient un peu l'esprit, disons. Et j'avais lu une interview d'Azanavicius qui disait que dans le troisième épisode, par exemple, il pourrait assumer totalement son homosexualité... Il pouvait le présenter vieillissant, qui assumait ses failles. Et j'ai peur que ce ne soit pas forcément la direction qui est prise Bedos. Mmh. Enfin, peut-être qu'il a voulu plutôt perpétuer le premier OSS, celui justement qui s'encrase dans sa bêtise. Bon, après, ça peut aussi être très bien comme ça. Hein. C'est juste qu'il n'aurait pas suivi la direction entamée dans le deuxième épisode, ce qui est un peu similaire avec Star Wars, finalement, pour continuer à filer la métaphore. donc, faut voir. Aussi, si ça finit comme l'épisode 9, ça peut être une catastrophe. On verra.
Ouais, alors, le film existe, le film va exister. Maintenant, il faut s'y faire, il va exister tel qu'il est. Je suis quand même, je suis impatient et à la fois un peu anxieux, quoi, parce que du coup, en fait, ça va peut-être à cause de l'aura du réalisateur, mais aussi à cause de l'aura même d'OSS. J'ai par exemple appris, et ça c'est pas une blague, j'ai appris que des mecs sur les applis de rencontre, alors je ne suis pas sur les applis de rencontre, donc j'ai appris ça, les mecs foutent des quotes de OSS en fait. Et ça me sidère que en fait OSS soit devenu un phénomène, soit pour les gens qui veulent juste dire moi j'aime OSS et c'est mon univers et c'est drôle, soit de l'utiliser comme un repoussoir juste parce qu'il dit des atrocités et que ces mecs-là disent des atrocités dans la vie aussi pour se dédouaner, mais pour dire c'est de l'humour, quoi. Et j'ai découvert ce phénomène-là juste là. Et je me demande encore quoi en penser, en fait. Je me demande si c'est pas trop tard pour OSS. Je me demande si on pourra rire sereinement. Je sais pas si la campagne de promotion, qui d'ailleurs se termine parce que ils ont dit que ça y est, Nicolas Bedos il parlera plus jamais sur les réseaux sociaux.
Il pourra faire une tribune dans la valeur actuelle. Ça va pas non plus.
N'oubliez pas que si vous prononcez trois fois son nom d'affilée, il va apparaître devant vous. C'est la règle immuable de.
Pour vous dire, vivez.
Vivez.
Enlevez vos masques et vivez.
Moi, écoutez, je vais vous dire un truc, j'ai pas vu OSS. Je sais qu'il y a des projos qui se font, je sais que c'est des projos qui sont un petit peu genre, ils font pas rentrer n'importe qui. Mais il y a un truc qui me rend plein d'espoir, puisqu'on se projette dans le futur aussi. C'est aussi ça, se projeter dans le futur de OSS et aussi de la carrière de Jean Dujardin, c'est que j'ai lu un portrait de Jean Dujardin écrit justement par Jean-François Alain. Et honnêtement, C'était publié dans l'Obs. Et ce qui était hallucinant, c'est qu'il expliquait sa démarche créative d'écrire OSS à travers, en utilisant Jean Dujardin, en expliquant que c'est un super acteur formidable parce qu'il arrive à retranscrire exactement. Et il expliquait sa démarche créative d'écriture de Hubert Bonisseur de la Batte. Et honnêtement, c'était génial. C'est super. C'est un vrai très très bon portrait, comme on peut s'attendre de la part de Jean-François Alain. Et donc je me demande, est-ce que le tampon Nicolas Bedos va altérer ça? Est-ce que ça va être authentique? Vraiment, je suis plein d'interrogations concernant ce film.
Honnêtement, c'est ma seule inquiétude en fait. C'est qu'il est trop retouché, le scénar d'Alain. Et c'est vrai que je parle pas de teaser. Le teaser, c'est totalement OSS. Le teaser, je parle de l'avion, là. C'est OSS. Il n'y a aucun problème. Le trailer qu'ils ont balancé après, t'as l'impression qu'ils essaient d'anticiper les accusations de racisme.
Les shitstorms.
Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, en gros, Hubert, le héros devient un mec qui dit je te dis ça, mais par contre c'est pas pour te vexer. Et tu dis non,
ah oui,
justement,
il prend la valise. Ouais.
Pour moi, il doit être Tintin au Congo. Ça doit être un con jusqu'au bout. Ça doit être un crétin. C'est pas du tout péremptoire, hein, ce que je dis. C'est sur la base de 2 minutes de film. Donc il y a rien, voilà.
Ouais, dans le 2, il y avait quand même des moments où il faisait des blagues antisémites et il y avait un petit blanc de 3 secondes avec un contre-champ de l'acteur en face. Et quand même, on sentait qu'il y avait une prise de conscience de OSS de ce qu'il était en train de dire qu'il n'y avait pas dans le 1. Et donc, faut trouver le bon juste milieu entre les deux approches. Là, c'est vrai que le problème du trailer, c'est que en fait, c'est une sorte de florilège thématique. Enfin, c'était très bizarre d'ailleurs comme trailer. Il y avait vraiment une thématique.
Et en plus, ça faisait pas film des années 80. En fait, je trouvais que ça faisait.
Je pense qu'ils assument.
Alors, ils ont changé de directeur de la photo.
Je pense qu'ils assument le gap. Genre, il y a 10 ans, quoi. Enfin, je pense.
C'est possible aussi.
Ouais, mais c'est censé pasticher les films de Belmondo. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas le côté les films de Verneuil, de Lautner. Donc, ouais, ils ont peut-être abandonné ça, ce qui est dommage. Mais c'est vrai que c'est plutôt la marotte d'Azanavicius d'aller reproduire à l'identique des films des années 50.
D'avoir le souci du détail, de prendre les téléphones. Là, tu as l'impression qu'au bout de 2 secondes, il va prendre un téléphone portable. Enfin, c'est peut-être une impression, mais tu vois ce que je veux dire. Tu as l'impression que c'est un peu décalé. Mais peut-être que c'est ça la volonté de OSS du troisième ODSS, on verra bien. Les gars, on va pouvoir pas passer aux recommandations, mais si vous avez un film que vous recommanderiez, alors toi, Yérim, je sais que t'as parlé du Convoyeur, qui est vraiment un de ses meilleurs films, mais tu peux en choisir un autre.
Je recommande.
Hugo, est-ce que t'en aurais un comme ça dont on n'aurait pas parlé, ou que tu voudrais mettre l'emphase?
Ce serait Le Dain, du coup, justement parce qu'il y a ce côté. C'est cet acteur très gestuel qui essaie autre chose et qui va aller sculpter à Dupieux, qui est presque son opposé cinématographiquement. Et en fait, il a souvent joué des fous. Mmh. Et là, on est vraiment dans la folie pure. Et je trouve que c'est une direction intéressante pour lui, de jouer des vrais malades.
Et si tu me permets, en plus, il joue la folie, mais il joue la folie, pour moi, c'est le Tom Hardy français, parce que Tom Hardy, ce qu'il fait dans Venom, c'est pas si éloigné du Dain.
Comment ça?
Bah, si tu regardes Venom, c'est la même folie, hein. Il commence à se parler. Là, il parle à un blouson, l'autre, il parle à un extraterrestre qui s'est collé.
J'ai tellement cru que t'allais dire Tom Hardy dans Legends, où il joue un rôle de jumeau, et tu m'as direct dit on va dans la benne à ordures, quoi. Venom.
non, j'ai pris Venom. C'est quand même un film où il croque des homards tout crus et il devient fou, quoi.
C'est terrible.
Oui, mais ouais, mais moi je trouve que j'aime bien ce genre de folie. C'est à ce moment-là que le film devient intéressant. C'est quand il bascule dans la folie. Et Le Dain est un film qui est tout le temps dans la folie. Est-ce que toi, t'en aurais un autre à recommander comme ça qui devient là? Et je pense que ça sera pas Brise 3.
Non, clairement. Bon, si je suis pas original, ce serait I Feel Good. Pour
ouais,
plein de raisons, parce que c'est du jardin conjugué à l'humour et à la science. Du gag de Kervern et d'Elépine. Donc ouais, je te dirais I Feel Good, pardon. C'est si je le fais rapidement, en gros, c'est un petit escroc qui arrive dans un village solidaire et qui tente par tous les moyens de malgré tout acquérir de l'argent. Voilà, on va juste dire ça. Et c'est Dujardin qui fait ça. Et c'était très avant-gardiste parce que le héros, du coup, est vachement macroniste. Enfin, il est vachement start-up et tout. Et après coup, mais vraiment après coup, enfin, c'est impossible qu'ils aient pensé à ça au moment de la conception du film. Comment dire? Des gens ont repris, enfin, ont collé des phases d'OSS 117 à Macron. Et donc forcément, c'est Dujardin, donc c'est drôle. Et voilà. Mais c'était fait bien avant. Et bah, je trouve ça assez marrant. Voilà. Donc, I Feel Good.
Et moi, pour ma part, je vais recommander un bon segment dans un film horrible. Je pense aux Infidèles.
Oui.
Et je pense que leur segment dure un quart d'heure. Hein. Et c'est la dernière, je crois que c'est la dernière fois qu'il est dirigé par Hazanavicius. Et c'est Jean Dujardin qui est avec Isabelle Nanty et qui, en fait, essaye de se taper Isabelle Nanty au cours d'un séminaire d'entreprise complètement paumé dans un truc genre Novotel avec vraiment de banlieue, pas de banlieue, mais plutôt de rond-point d'autoroute. Enfin, vraiment, vraiment un endroit un peu sordide. Et il essaye de sortir avec toutes les femmes et finalement il reste plus qu'Isabelle Nanty et du coup il est ridicule et il fait tout pour se la taper quand même parce que ça fait un peu c'est vraiment le mec sordide et pathétique et je trouve que c'est 15 minutes absolument brillantes de son talent. Parce qu'il n'hésite pas à aller au bout de lui-même et il le joue vraiment. Là, je pense que c'est vraiment le plus grand Jean Dujardin acteur. Je pense que ces 15 minutes sont vraiment extraordinaires. Le seul problème, c'est qu'il faut se taper aussi... faut se taper quand même...
Bah, il faut se taper le film des Infidèles, en fait.
Faut se taper les Infidèles, dont un horrible passage scénarisé par Gilles Lelouch, dont un segment scénarisé par Nicolas Bedos, déjà là. non, c'est vraiment un film au-delà de beaucoup de supportable hein, pour moi, mais par contre son segment à lui est extraordinaire, donc prenez ça comme une semi-recommandation ou alors Avance rapide, si vous le louez, je suis désolé, vous allez louer l'entièreté du film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion sur l'objet Jean Dujardin.
Pas de soucis.
Avec plaisir.
J'aime énormément le fait que personne n'ait prononcé le nom de Scorsese.
par rapport au Loup de Wall Street.
Oui, a priori, il a pas non plus filmé Les Infidèles, donc ouais.
Oui. Mais tu sais quoi,
ça aurait été intéressant.
Je voulais pas, je voulais pas être mesquin, mais c'est vrai que dans le Loup de Wall Street, il est pas génial, Jean Dujardin.
Ah, tu trouves? Alors, attention. Anecdote importante.
Voilà. D'accord.
Je fais l'interview d'une actrice française qui est voilà, installée, on va dire ça comme ça.
D'accord, une grande actrice.
Et elle me dit direct, moi par contre, je sais pas parler anglais, donc du coup, je suis pas allé au truc de Scorsese. Et je me dis, attends, mais elle parle de quoi? Et elle me dit, ouais, pourtant j'aurais été avec un grand acteur international, je sais pas quoi. Et de quoi elle parle, un truc? Et après, le Loup de Wall Street sort. Et en fait, je comprends que cette actrice aurait dû être la tante, il me semble, que t'as dans les scènes en Suisse, il me semble, dans le Loup de Wall Street.
D'accord.
T'as en gros, voilà. Bon, bref, c'est Yvonne Moreau. Et voilà.
Et elle n'est pas passée loin de jouer de là-dedans, quoi.
Bah, c'est elle qui était voulue, en fait. Mais c'est juste qu'elle ne parle absolument pas anglais.
Et donc, ils ont pris quelqu'un qui ne parle pas non plus.
Bah, rappelle-toi, Loup de Wall Street. T'as une tante.
Bah, il parle pas.
Non, si, mais rappelle-toi. T'as même une scène où DiCaprio est tellement défoncé, enfin, son personnage est totalement défoncé, et t'as un croisement de voix off, et ce con pense qu'elle essaye de le séduire, alors que pas du tout. C'est elle. C'est ce personnage.
Ah, ok. Mec, voilà. Tout d'un coup, là, j'ai l'impression d'avoir rassemblé les pièces d'un puzzle. J'ai l'impression que j'en sais plus sur le Loup de Wall Street.
Putain, on aurait pu avoir Yolande
Moreau. Non, mais clairement, enfin, moi, ça m'obsède depuis qu'elle me l'a dit, en fait. Il faut que j'en parle
mais surtout,
à quelqu'un.
Elle, je vais pas dormir de la nuit. Mais surtout, elle, ça doit l'obséder, elle aussi.
Il faut que ça obsède d'autres gens.
Je veux comprendre.
Désolé.
Bon, bah, on va le laisser sur cette obsession de Jean Dujardin, mais aussi de Yolande Moreau. On n'est pas passé loin d'un chef-d'œuvre authentique.
Totalement.
Pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. Et la semaine prochaine, on reprend. Je dis ça à peu près tous les épisodes, mais là, c'est sûr. On va enregistrer en vrai, en réalité. On va pouvoir se faire des brofistes, certes distanciés, mais en vrai aussi. Ouais. On ne sait pas.
Avec des gants.
Avec des gants, sous contrôle d'huissier, avec autorisation de Blanquer, signé de Blanquer et de Darmanin. Vraiment, ça va. C'est, non, on va pas pousser jusque là. Mais en tout cas, on sera dans le vrai studio, vraies conditions. Donc ça va être une autre salade. Je vous remercie d'avoir participé tous les deux.
Merci.
Les Dujardin, les Dujardinistes. Non, les comment tu disais les.
Dujardiniers.
Les Dujardistes.
Dujardiniers.
Les Dujardiniers. Voilà. On vous embrasse très fort, on vous dit bon courage où vous soyez et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.